Bonjour, de retour sur Creative Disturbance. Je m'appelle Yvan Tina et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Yasser Djeradi depuis Tunis, en Tunisie. Bonjour Yasser.
Bonjour Yvan.
Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Je m'appelle Yasser Djeradi. Je suis artiste plasticien de formation. Je suis sculpteur.
Ouais.
Et pendant mon passage à l'école des beaux-arts, j'ai appris à jouer de la guitare. Et j'ai aussi appris à faire des films, donc je suis un peu cinéaste, un peu musicien, mais surtout artiste plasticien.
Ok, il me semble que ton travail consiste précisément à actualiser la calligraphie arabe sous de nouveaux modes d'écriture.
Oui, en fait, mon histoire avec la calligraphie arabe a
Ouais.
commencé par accident, en fait. Parce que quand j'étais à l'école des beaux-arts, j'étais pas très intéressé par la calligraphie arabe. Mais quand j'ai fini mes études, j'ai constaté que j'étais un artiste occidental, entre guillemets. Donc j'ai constaté que il y a quelque chose qui cloche là-dedans, il y a un petit problème. Donc depuis, je me suis intéressé un peu de petit à petit à la calligraphie arabe. Et quand j'ai fini mes études, j'étais plutôt un artiste pop art, art vidéo et tout. Donc j'ai eu une petite bourse pour une résidence en Suisse et j'allais travailler un projet d'art vidéo sur le corps humain en tant que proportion
Ouais.
au sein d'une grande ville. Donc cette ville qui le dévore en quelque sorte, alors que c'est lui qui l'a construit. Donc cette rhétorique entre ce petit corps du corps humain au sein d'une grande ville avec les bâtiments et les voitures et tout. Donc l'homme, il a construit une machine, mais il n'arrive plus à la contrôler. Et quand j'étais là-bas sur place, j'ai constaté que j'étais hors sujet, parce que la ville de Berne en Suisse, c'est
Oui.
une ville très spacieuse, il y a pas beaucoup, il y a 120 000 habitants, donc j'étais vraiment donc
La petite ville bourgeoise européenne, quoi.
oui, calme, il y a pas beaucoup de gens et tout, c'est très calme et tout. Donc j'ai dû changer de projet et c'est là où j'ai commencé mon aventure avec la calligraphie arabe contemporaine. Et je trouve que cette histoire ressemble un peu, je dis bien un peu, toute proportion gardée, à celle de Paul Klee, qui est devenu peintre quand il était en Tunisie. Donc il a été vu par la lumière de la Tunisie, donc et c'est là qu'il a vraiment qu'il est vraiment devenu peintre. Donc j'ai commencé mon aventure avec la calligraphie arabe contemporaine en Suisse, c'était en 2003.
D'accord. Alors, pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi, je suis complètement néophyte là-dedans. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par resituer les sources, les bases de cette tradition?
Oui. Donc la calligraphie arabe a commencé juste avec l'islam. Et son but, au début, était purement technique. C'était pour sauvegarder le Coran. C'est pour copier le Coran. Au début, c'était ça le but. Après, petit à petit, ça s'est développé, surtout en Irak. Et c'est là où on a eu la naissance de styles calligraphiques. Donc, il y a une ville qui s'appelle Al-Kufa, en Irak. Style calligraphique, qui s'appelle Al-Kufi, et qui a plus de 120 styles calligraphiques. Rien que le Kufi. Donc, avec ça, parce que quand le style il arrive par exemple de l'Orient à l'Occident, entre guillemets, en Tunisie par exemple. Donc il se mélange, il prend des nuances et tout. Donc il devient le Koufi maghrébi ou un truc comme ça. Quand il va en Andalousie, la même chose. Donc quand il voyage, il s'enrichit des nuances des villes et des civilisations un peu différentes à cette époque. Donc en tout, on a plus que 200 styles calligraphiques. Donc c'est un art vraiment très riche.
Donc
moi personnellement. Oui.
Non, pardon, excuse-moi, je voulais pas te couper, mais est-ce que si je comprends bien, c'est un art qui mélange à la fois le plaisir esthétique et le plaisir de la réflexion, de la pensée, parce qu'il est effectivement lié à des textes sacrés.
Oui, bon, oui et non, parce que en fait, la calligraphie est un art spirituel par excellence. Ça a permis la création d'un art qui s'appelle le lettrisme après.
Ouais.
Donc, cet art lié aux lettres, en fait, c'est spirituel par excellence. Et au début, c'était lié directement au texte sacré, parce que la calligraphie est née en copiant le Coran. C'était un but technique, si vous voulez, au début.
Ouais.
Mais petit à petit, ça a pris des tournants un peu esthétiques, un peu plus esthétiques et tout. Et surtout en voyageant, parce que la calligraphie, quand elle voyage d'une ville en ville, de pays en pays, elle prend les nuances, des nuances, elle prend des couleurs un peu différentes. Donc on peut dire que l'Irak et surtout El Koufa,
Oui.
c'est une ville qui s'appelle El Koufa, c'était le centre de la calligraphie. C'était là où naît la calligraphie. Et d'ailleurs, on compte plus de 120 styles calligraphiques qui émergent du koufi. Donc c'est une famille à part qui s'appelle le koufi. Donc
Le coup.
après, il y a des nuances. Donc ça, il y a 120 styles, parce que en calligraphie en général, il y a à peu près 200 styles. Donc 120 uniquement qui sont nés. L'origine est née à Koufa, donc c'est le koufi. Donc
Donc,
après, on peut trouver le koufi maghrébin, le koufi andalou, le koufi syrien. Tu vois, donc ça prend des nuances, mais l'origine c'est Al Koufa.
ok, d'accord. On est obligé d'avancer un peu dans la discussion. Je voudrais savoir
Ok.
maintenant à quoi est-ce que en quoi est-ce que consiste alors ton œuvre ou ton projet de remodernisation, pardon, je vais y arriver,
Ouais.
d'actualisation en fait de cette calligraphie.
Moi je me rappelle d'une citation de Picasso quand il dit en art, il n'y a ni futur ni passé. L'art qui ne se situe pas dans le présent ne sera jamais. Donc moi ce que j'essaie de faire, c'est de faire la calligraphie au XXIe siècle avec la mentalité d'une personne, d'un artiste qui vit au XXIe siècle. Donc forcément, on ne peut pas la faire à la manière des premiers calligraphes. Donc
Oui.
j'essaye de lui proposer de nouvelles voies à la calligraphie, de nouveaux supports, de nouvelles approches en fait. La principale pour moi, l'approche principale pour moi, c'est de essayer de libérer entre guillemets la calligraphie de la prison du sens. C'est
Oui.
comme si elle servait uniquement pour donner un sens. Moi, j'essaie de dire non, c'est pas seulement ça. Donc, je découpe. Donc, ma calligraphie à moi, elle est à peine lisible. J'essaie de mettre l'accent sur la musicalité des lettres, sur l'esthétique de la calligraphie en soi, pour dire que non, ça, c'est un art en soi. Il n'a pas besoin de donner un sens pour vraiment exister. Non. Ça veut dire une seule lettre ou un seul mot, il peut porter beaucoup de beauté en lui. Vous voyez? Donc, j'essaie de le libérer la calligraphie de la prison du sens, entre guillemets. D'une. De deux, j'essaie de lui proposer de nouveaux supports,
Oui.
de nouvelles idées et de voyager avec la calligraphie. Donc, je suis en perpétuelle expérimentation avec la calligraphie. Donc, pour moi, le but n'est pas d'atteindre, hein, c'est pas à la fin de créer sa propre calligraphie. Non, non. Le voyage en lui-même est le but pour moi. Le voyage avec la calligraphie, pour moi, c'est le but. Et de pouvoir partager cette passion avec les gens, avec les êtres humains, quoi.
Ok. Je vais te poser une question. J'ai eu l'occasion de faire un podcast presque sur le même thème avec une étudiante artiste ici qui s'appelle Huda Hashim, qui elle fait des calligraphies qu'elle situe dans des environnements virtuels. Et ma question c'est, est-ce que dans ton travail, tu fais usage des outils technologiques ou numériques?
Numérique, oui. La vidéo, par exemple. Donc, j'ai souvent utilisé la vidéo. J'ai même utilisé des projecteurs, qu'on appelle ça les têtes pivotantes, qu'on utilise ça dans les boîtes de nuit. Donc,
Oui.
en changeant les gobos avec des calligraphies, donc ça crée des calligraphies en lumière qui bougent et qui se défigure, qui se décompose et tout ça. Donc, j'aime bien faire des expérimentations comme ça avec les lettres et changer les lieux, envahir des lieux non conventionnels entre guillemets. Donc, j'ai souvent fait des trucs comme ça. La dernière création, c'était on a travaillé sur des voitures de l'ancienne dictature en Tunisie. On a brûlé ces voitures, on les a jetées dans un coin. Donc nous, les artistes, on s'est rassemblés, on a fait une journée de peinture sur les voitures de l'ancienne famille de dictature. Donc on travaille comme ça, on essaye d'extérioriser l'art, la calligraphie, de la faire sortir des galeries, tout ça. Sa vraie place, c'est les rues, c'est... Ouais.
Ok. Qu'est-ce que ça change d'utiliser un outil technologique puisque ou numérique, puisque est-ce que tu perds par exemple cette relation très étroite, intime qu'il y a, que je comprends entre la peinture par exemple et la poésie, puisque quand tu écris, tu peins en même temps en quelque sorte. Est-ce que tu retrouves cette même chose quand tu manipules des outils technologiques, numériques, ou alors il y a là quelque chose qui a disparu et au profit d'autre chose d'ailleurs.
Exactement. Tu as tout dit. Donc, il y a quelque chose qui disparaît, pas totalement, mais qui laisse la place à une autre chose. Mais il y a de la place à tout. Donc, je me rappelle de Platon qui disait, peut-être que l'art n'a pas besoin de se développer. Il suffit toujours de trouver la bonne composition. Donc, du moment où tu es dans ce que appelle Platon la bonne composition, donc tu trouveras certainement du plaisir en changeant de support, en changeant de... Donc, moi, j'aime pas sacraliser une technique par rapport à une autre, non, mais aussi s'ouvrir sur d'autres possibilités, sur d'autres supports. Ça peut faire évoluer la sensibilité humaine. Donc, un artiste... Son rôle, c'est ça, c'est de libérer les sensibilités, c'est de proposer de nouveaux possibles, donc d'élargir les limites du possible et de proposer aux gens qui consomment entre guillemets l'art de nouveaux espaces de sensibilité. Vous voyez, donc c'est de élever la sensibilité de l'être humain, lui proposer de choses nouvelles. C'est ça le vrai rôle de l'artiste, donc c'est libérer les êtres humains en fait.
Bah écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre cette discussion sur ton travail. J'aimerais juste, avant de conclure, qu'on parle d'Amal Alayan, qui nous a mis en contact et que je remercie effectivement, qui est en train de vouloir créer un festival dans le désert tunisien. Et il me semble que tu es impliqué dans ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, Amal, c'est une fille formidable. C'est vraiment une boule d'énergie. Donc, je l'ai rencontrée par hasard pendant le forum social en 2013 en Tunisie, et on a commencé à discuter autour de l'art en général et tout. Et petit à petit, elle a eu cette idée de faire un festival qui réunit tout ce qui est technologie et avec tout ce qui est artistique. Qui s'appelle Charara. Charara, ça veut dire étincelle. Donc, et on est en train de travailler là-dessus. Probablement, ça sera pour le mois d'octobre 2016.
D'accord. Bon, bah, gardez-nous, tenez-nous au courant de la suite des événements. Et il me semble que tu avais travaillé aussi, tu avais été en résidence en Centrafrique ou je sais plus quel pays d'Afrique subsaharienne pour un projet de résidence avec l'Union européenne. C'était quoi?
Oui, en fait, c'était un projet sur la culture underground et sa relation avec les médias. Au
Ouais.
début, c'était un projet entre le Niger, le Sénégal et le Mali. Et comme c'est l'Union européenne qui finance ça, ils ont proposé d'inclure la Tunisie, puisque les Tunisiens, ils sont en avance par rapport à tout ce qui est underground et tout. Donc, ils nous ont convoqués. Et on a été là-bas en tant que consultant pour donner nos avis sur nos propositions et tout. Donc, c'est un projet aussi qui est très ambitieux, qui est en train d'évoluer petit à petit.
Est-ce que par hasard tu connais la plateforme Rami Med, Rami Méditerranée?
Non?
C'est une plateforme installée dans plusieurs pays de la Méditerranée, je crois au Liban, en Égypte, au Maroc et aussi dans le sud de la France, à Marseille, et qui a pour but justement de stimuler et d'encourager la création numérique et technologique en Afrique. Donc ce serait pas idiot que vous vous rencontriez et qu'on
Oui,
peut-être.
avec plaisir. Oui.
Bon, on reste en contact pour ça et je te remercie encore une fois. J'ai une dernière
Merci.
question. Qu'est-ce que
Oui.
Afrique virtuelle évoque dans ton esprit?
Ah, ça, c'est une question. Moi, j'adore l'Afrique, en fait. J'adore l'Afrique. Et en même temps, ça me fait de la peine quand je vois. Notre présent, quoi, notre situation, tous les pays africains, je sais que nous devons nous mettre debout un de ces jours et suivre les pas de Thomas Sankara et de tous ces révolutionnaires qui ont tout essayé pour aider l'Afrique. Moi, je crois à un avenir meilleur pour l'Afrique parce que je rencontre de plus en plus d'Africains intelligents et ambitieux et sensibles et qui veulent vraiment que l'Afrique soit beaucoup mieux que ça.
Ok, bah écoute, j'ai pas voulu aborder le volet politique et de la situation en Afrique et en Tunisie du moment, mais on serait ravis de poursuivre le dialogue avec toi et avec ces personnes.
Ok, à bientôt.